Salut, c'est Jérémy. Le podcast, c'est Frugalisme et Liberté Financière. C'est le podcast où on parle d'argent, mais surtout pas en se prenant pour des experts, parce qu'on a compris que dans ce domaine, eh ben, c'est quand même assez important de faire preuve d'humilité et de reconnaître qu'en vérité, dans le domaine de l'investissement, on en apprend tous les jours. Je rappelle que si tu souhaites aller plus loin, j'ai écrit un livre aux éditions Robert Laffont qui s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque. Il y a aussi mon site internet qui s'appelle lefrugalisme.com, tu pourras y trouver un guide pour faire des économies qui est totalement gratuit. Il y a également des tas d'outils qui sont gratuits et accessibles sur mon site internet, des calculatrices de rentabilité, des calculatrices également d'intérêt composé. Et il y a bien sûr la chaîne YouTube Frugalisme et Liberté Financière. Alors, dans le podcast d'aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, je souhaitais donner la parole à Adrien. Adrien, c'est un frugaliste qui fait des investissements, mais qui investit sans se priver. Et Adrien, eh bien, il vient pas d'une famille super riche, il vient pas d'un milieu où on lui a donné beaucoup d'argent. Et Adrien, il a jamais eu des gros salaires, mais je pense que le mieux, c'est de lui donner directement la parole. Bon, eh bien, merci beaucoup, hein, Adrien, pour être... avec nous pour avoir accepté mon invitation sur le podcast. Tu sais, ça fait un petit moment que je développe ce podcast autour de ma thématique, notre thématique, le frugalisme, l'indépendance financière. Et puis, je trouvais que ce serait pas mal de faire beaucoup plus d'interviews sur des formats longs. Je pense que ça se prête plus au format podcast qu'aux vidéos YouTube. Et puis, bah, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu t'inviter à en discuter. On s'est jamais rencontré de visu, mais on avait fait connaissance parce que tu étais venu vers moi à un certain moment pour me dire: Jérémy, il faut absolument que tu revoies ton site internet parce qu'il n'était pas très joli à ce moment-là, je ne l'avais pas très bien fait. Bon, depuis, j'ai écouté tes conseils et je m'étais dit: mais hey, c'est sympa, mais qui es-tu, Adrien? Donc, du coup, aujourd'hui, je te repose la question: mais qui es-tu, Adrien?
Je suis un frugaliste comme toi, Jérémy. Et bah, écoute, ça fait très plaisir d'être là avec toi et de pouvoir parler de frugalisme parce que je trouve que c'est super important. Ouais. Et moi, je me ressens comme frugaliste depuis bien longtemps. Ce qui m'a permis d'être frugaliste au départ, c'est un sentiment quand j'étais tout jeune. Je venais juste d'avoir mon premier boulot. Mmh. Je n'avais pas forcément réussi ma partie études. J'avais beaucoup de mal. J'avais quelques difficultés en fait à l'école. Oui. Et j'étais entouré d'amis qui étaient ingénieurs à l'époque, qui m'ont donné quand même une certaine façon de penser, une bonne logique en fait. Et je me suis dit: Adrien, ça serait dommage en fait de devoir évoluer en fait de ton côté, parce que j'étais voué à toucher un SMIC, hein, et puis à toucher vraiment un petit salaire parce que j'avais pas fait beaucoup d'études.
Bien sûr.
J'ai fait juste un CAP électrotechnique, donc c'est vraiment c'est pas vraiment grand chose. Et j'ai commencé voilà avec un simple SMIC. Mmh. Et la première question que je me suis posée, c'est c'était tout bête hein, comme réflexion. Je me suis dit: comment je vais faire pour rester dans la course et pour comment je vais faire en fait pour ne pas être exclu en fait de ce groupe-là, parce que nos vives en fait vont changer, ils vont être amenés à être payés plus de 2000 euros. Moi, je vais rester au SMIC, et puis si j'ai pas les mêmes intérêts qu'eux, ben je vais devoir en fait pas les quitter, mais la vie en fait va nous séparer d'une certaine façon. Et en fait, de par cette réflexion-là, j'ai commencé en fait à me dire: ben écoute Adrien, c'est peut-être le moment en fait de mettre de l'argent de côté pour avoir quelque chose de, enfin, comment dire, d'équivalent en fait à leur futur en fait à eux qui s'annonçait vraiment très beau. Et pour le coup, ben, j'ai commencé à économiser comme ça, à mettre des petites sommes de côté.
Alors, je vais te poser deux questions. D'abord, la première, quel âge as-tu? Et ces amis, ensuite, tu les connaissais dans quel contexte? C'était des copains à l'école?
C'était des copains d'école, des connaissances de connaissances. Moi, j'ai 28 ans, J'ai 28 ans et quand je l'ai côtoyé, j'en côtoie toujours quelques-uns. D'ailleurs, je leur passe le bonjour parce qu'ils vont sûrement écouter ce podcast.
Ben, espérons.
Et du coup, ces amis-là, je les connaissais depuis l'école. Et puis, en sortant de l'école, on a souvent, c'est pas des complexes, mais c'est on a peur que les choses changent trop vite. Et puis, on a peur de peut-être d'être exclu de certaines choses. Et du coup, j'ai mis en place de certaines choses, du coup, des petites habitudes que je me suis créées.
On va
en
y
disant,
venir.
Je me suis dit, écoute, Adrien, c'est le bon moment, tu es tout seul dans ta vie, mets un maximum d'argent de côté, parce que pour le moment, à ce moment-là, j'étais chez mes parents.
Bien sûr.
Et je mettais, si je touchais le SMIC, je mettais 1000 euros de côté, et je gardais les 200 euros pour m'amuser, pour mettre du plein dans mon essence, pour participer aux courses chez mes parents. Et je me faisais plaisir en fait avec 200 euros. Et le reste, après, je conservais en fait les 1000 euros.
Ça, c'est quand même incroyable. Excuse-moi, mais c'est quand même assez incroyable ce que tu es en train de me dire, parce que, tu étais dans un contexte particulier, puisque tu vivais chez tes parents, mais tu arrivais tout de même à mettre 1000 balles de côté chaque mois. C'est ouf. C'est ouf. Ça fait 12 000 balles par an.
Après, il y en a certains qui vont dire, oui, mais Adrien, j'ai peut-être pas eu cette chance de pouvoir être hébergé gratuitement.
C'est une chance,
mais
bien sûr.
C'est une chance, bien sûr. Mais après, la volonté de vouloir mettre de côté, tout le monde peut le faire. Même avec un plus petit salaire. Moi, je vais pas le cacher. Je suis resté au SMIC pendant très, très longtemps. Parce que je n'avais peut-être pas forcément confiance en moi. J'ai rencontré ma compagne en ayant le SMIC, hein, j'ai pas honte de le dire.
Bien sûr.
Et j'ai pas, malgré que je ne sois plus chez mes parents, j'ai toujours conservé en fait cette habitude de mettre de l'argent de côté et à me dire, Adrien, n'achète pas des choses qui sont pas forcément nécessaires.
Bien sûr.
Et de me contenter en fait de ce que j'ai, des objets que j'ai déjà autour de moi.
Ouais.
Et de me contenir en fait à ce que j'ai déjà de base, et tout en me faisant plaisir, parce qu'il faut pas s'oublier non plus dans la vie. Mais j'ai gardé ces bonnes habitudes. Et
comment tu te fais plaisir? Comment vous faites plaisir puisque vous êtes en couple?
Alors aujourd'hui, je tiens quand même à le préciser, je suis avec ma compagne depuis 3 ans et demi. On se fait plaisir en voyageant. On voyage beaucoup. On s'offre des expériences. Des fois, ça nous arrive. Hein, on va dans des très beaux hôtels. On ne regarde pas forcément le prix de certaines choses parce qu'on part du principe que c'est des expériences qui sont uniques et qu'on va revivre peut-être qu'une seule fois. Mais c'est des expériences que maintenant, on peut se permettre de vivre parce que ça n'a pas été toujours comme ça.
Non.
Mais on se fait plaisir. Si on a vraiment une envie particulière, en termes de voyage, c'est surtout dans le voyage, moi, que je me fais plaisir, on va vivre l'expérience. Mais par contre, sur ce qui est matériel et des choses qui sont banales, que ce soit un nouveau téléphone, que ce soit le dernier objet high-tech et tout ça, j'en ai pas forcément besoin. Et puis, j'ai déjà un portable, ça fait 4 ans que je l'ai. Je n'ai pas besoin d'en acheter un toutes les années et de remettre 1000 euros chaque année dans un téléphone. Je trouve ça complètement absurde. Et puis même pour la planète, c'est pas bon du tout, quoi. Et je préfère, moi, personnellement, après, c'est là où je m'y retrouve. Je fais vivre les choses un maximum de temps, peu importe l'objet que j'ai dans les mains. Et je lui donne la vie qu'il devrait avoir, cet objet, et je suis très content. Et puis le jour où ça tombe en panne, ou le jour où l'objet vient à être cassé, ou peu importe, eh bien, j'ai pas de regret, parce que j'ai l'impression de lui avoir donné quand même beaucoup d'importance.
Oui, certainement.
Et j'ai pas de problème à racheter un objet. Alors, Quand je rachète un objet, bien sûr, je fais attention à comment je l'achète. J'essaye de voir si je ne peux pas le trouver d'occasion, si je ne peux pas trouver la meilleure promo, parce que souvent, c'est ce que je fais. Quand je regarde un objet qui est vendu sur Internet, je regarde, je me fais en fait une espèce de limite de prix. Je regarde à quel moment l'objet il a été vendu le moins cher et je regarde à quel moment enfin, les zones de prix, si tu préfères. Je regarde à peu près. Le prix global de l'appareil et me dire bah, tiens, si je peux l'avoir dans ces prix-là, ça serait vraiment top. Et puis, quand il y a une bonne occasion qui se présente avec une bonne promotion, là, je l'achète. Je l'achète, mais vraiment, il faut vraiment qu'il y ait un moins 30%, un moins 50%. Je l'achète. Il faut vraiment que cet objet me corresponde et vraiment va me servir vraiment à quelque chose. Et là, j'ai pas de regret. J'ai pas de regret. L'objet va durer plusieurs années, Allez, je vais dire 10 ans, 20 ans. Et puis voilà, et puis je suis très content, même si un jour je viens à le perdre ou quoi que ce soit, j'ai pas de regret parce
Ouais,
que
c'est
j'ai
pas
fait
un drame, tu
déjà
peux
le.
vivre sans.
Voilà.
J'ai une question à te poser parce que peut-être c'est une question que nos auditeurs vont se poser en ce qui concerne ta compagne. Est-ce
Oui.
qu'elle-même gagne un gros salaire? Je suis pas en train
Non,
de te demander
absolument
combien
pas.
elle gagne, hein, ça ne regarde pas, mais c'est pour se donner un ordre d'idée un petit peu si,
Alors,
si...
ma compagne touche 1 600 euros. Voilà, parce qu'elle
D'accord.
est, elle est, elle est technicienne, mesure physique. Elle est technicienne, elle gagne 1 600 euros.
D'accord.
Et puis, elle est d'origine asiatique, née en France, mais elle a une éducation asiatique. Et de par son éducation, déjà, ses parents lui ont déjà donné de bonnes bases sur l'épargne. Et ça, en fait, dès qu'on s'est rencontrés,
Ça a matché.
Ça a matché parce que on avait à peu près les mêmes objectifs. Alors, j'ai pas choisi ma compagne parce qu'il y a beaucoup qui me disent ah, mais c'est un peu triste. Vous êtes
Non, non, non.
rencontrés, enfin, vous êtes rencontrés par rapport à ça, mais pas du tout en fait. C'est
Mais
que
tu...
on avait les mêmes objectifs, on
Ouais.
voulait justement atteindre certaines choses ensemble, et puis après, on s'est aperçu que justement par rapport à la façon de voir la vie, à la façon
C'est
de voilà
clair.
qu'on économisait chacun de notre côté, déjà moi ça m'a rassuré. Je me suis dit génial, je suis pas avec quelqu'un qui est dépensier.
Non, bien sûr.
Je vais pas devoir redoubler d'efforts pour faire ce que j'ai envie de faire. Et du coup ça m'a soulagé. Moi je suis très content d'être avec.
Tu sais que c'est énorme ça, parce que quasiment à chaque fois que je fais un live, même très souvent, il y a des gens qui me demanderaient, mais alors, comment faire pour rencontrer une personne qui soit dans le même délire, quoi, tu vois? Et bien souvent... Ou comment faire quand on a un conjoint, un compagnon qui n'est pas du tout dans la même approche. Et c'est vrai que quand tu arrives à rencontrer une personne qui a les mêmes valeurs que toi et en fin de compte qui regarde la vie dans le même sens, quoi, si tu préfères. Waouh, quelle chance! Quelle chance, parce que c'est vraiment un bonheur et on est toujours plus fort à deux, quoi. Donc
Bien sûr.
c'est une véritable chance que tu as d'avoir réussi à rencontrer. Pour elle aussi, j'en suis persuadé, une personne qui voit la vie de la même façon, quoi. C'est
C'est
ça le
sûr.
truc. Ouais,
Après, quelle chance, mais il vaut mieux trouver quelqu'un qui est, même si on a du mal à trouver quelqu'un qui est économe ou même si c'est des fois c'est difficile de trouver la même personne qui a les mêmes objectifs que nous, mais déjà de pas non plus être avec quelqu'un qui est dans l'extrême opposé, qui va justement tout dépenser et avoir des très mauvaises habitudes dépensières, parce que cette personne, malheureusement, risque de t'attirer vers le fond, alors que toi, tu étais bien parti, que tu as fait beaucoup d'efforts. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai fait par le passé. Je me suis mis avec quelqu'un qui était très dépensier. Et ça a joué un peu sur mon compte en banque. Et puis... C'est pas pour ça que ça s'est arrêté là,
Non,
mais
mais...
je voyais que déjà au niveau des objectifs, c'était pas du tout la même chose. Et puis même pour faire comprendre certaines choses, c'était très compliqué. Alors que quelqu'un qui a pas forcément cette mentalité-là de mettre de l'argent de côté, quelqu'un qui est ouvert, qui est déjà ouvert d'esprit, qui est prêt à écouter. Écouter les gens parler, qui est prêt à prendre du positif dans les discussions, quoi que ce soit, il peut comprendre qu'il y a un intérêt derrière pour lui et même pour sa vie future. Et moi, je m'intéresse justement à des gens comme ça qui sont ouverts d'esprit et qui sont capables en fait de voilà de de prendre les choses qu'on leur donne pour les adapter dans leur vie. C'est beaucoup plus agréable.
Je suis tellement d'accord avec ça. Ouais, je suis vraiment, vraiment complètement tellement d'accord avec ça.
Parce que les gens qui sont bornés, malheureusement, j'en ai connu beaucoup, comme toi, tu as dû en connaître beaucoup. Oula. Et malheureusement, avec ces gens, alors c'est pas qu'on n'accepte pas leur mode de vie ou leur façon de faire, c'est juste que moi, personnellement, j'ai l'impression des fois de m'épuiser avec ces gens-là, et j'ai l'impression des fois de trop leur donner de mon énergie, parce que des fois, on va leur donner des conseils, ou des fois, on va avoir des discussions, on va pas s'y retrouver, on va pas avoir les mêmes objectifs. Et puis, ça peut créer de la jalousie, ça peut... Alors qu'avec quelqu'un qui est ouvert de l'autre côté, les discussions, elles sont fluides, et puis on s'entraide, en fait, chacun. On n'est pas toujours en train d'apporter quoi que ce soit, enfin, quelque chose, nous. Moi, je ne suis pas tout le temps en train d'apporter quelque chose, mais on se complète, voilà. Il y a une discussion, il y a quelque chose qui se crée. Moi, je me tourne vers ce genre de personnes-là.
Moi, aujourd'hui, je vais te dire la vérité, comment dirais-je ? Je ne cherche plus à convaincre. Je ne cherche pas à convaincre parce que tu ne forceras pas un âne à boire s'il n'a pas soif. Quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas tomber sur des tas de personnes qui ont d'emblée décrété que ta vision de la vie, ta vision de l'investissement, ta vision des choses, elle n'était pas la bonne. Quoi. Voilà. Et qu'eux, ils ont raison et que toi, tu as tort. Donc bon, moi, je ne vais pas m'évertuer à perdre mon temps et essayer de convaincre les gens. Ce que je fais, c'est que je parle de ce que je fais. Enfin, je partage ce que je fais, je partage ma vision des choses. Et c'est vrai que je me rends bien compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui adhèrent à cette vision, quoi. Y compris parmi les lecteurs du livre, encore plus. Ça a encore plus décuplé cet effet-là, de se dire que c'est important effectivement de vivre en dessous de nos moyens. C'est important d'être conscient de ce qu'on fait. Et puis c'est important d'être conscient de la manière avec laquelle on peut faire travailler notre argent pour se prémunir de comment dirais-je, de situations professionnelles qui pourraient potentiellement devenir difficiles à un moment donné.
Bien sûr.
Et je le prends souvent en exemple, mais je le dis, moi mon rêve, ça, mon moteur, ça n'a jamais été les grosses bagnoles ou les machins, tu vois, je m'en fous. Moi, mon rêve, ça a été...
d'être tranquille.
Un rêve de sécurité, bien sûr, bien entendu.
Ouais, d'être tranquille.
De faire ce que je veux, quand je veux, de pouvoir même me consacrer à des activités plus personnelles.
Qui te plaisent.
Ouais, ou de business, tu vois, où tu peux te permettre de prendre un risque parce que tu as quand même assuré un certain nombre de choses derrière. Quoi. Et même bien ça, sûr. Je vais même aller encore plus loin, c'est que c'est pas toujours constant. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines personnes qui s'imaginent que la liberté financière, tu sais, c'est une espèce de graal qu'il faut atteindre, et une fois que tu l'as, ça y est, la vie est belle. Mais en fait, c'est totalement faux, c'est plein de nuances là-dedans. Il y a des gens, par exemple...
C'est des idées qu'on peut se faire.
Oui, bien sûr, il y a des tas de gens, par exemple, qui vont décider de bosser à mi-temps ou à temps partiel, ou de lever le pied, ou de prendre une activité moins rémunératrice, tout en ayant plus de temps pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Quoi. Voilà, tout simplement. Mais c'est suspect, hein, quand tu commences à dire aux gens autour de toi que ton délire, c'est pas forcément d'avoir le dernier machin, le dernier truc et tout, tu vois, que tu te définis pas à l'aune de ce que tu possèdes, ça peut sembler suspect. Alors tiens, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Du coup, Adrien, vous êtes un couple de radins, de pingres, ça se passe comment ?
Absolument pas, même je suis le premier à... Je suis premier à donner quand par exemple, là, je te donne un exemple. Il n'y a pas si longtemps que ça, là, il y a à midi, j'étais déjà en train d'aider un ami qui est avec sa compagne, alors qui est conscient qu'il a un peu du mal à mettre de l'argent de côté. Mmh. Et je lui ai donné mon temps, en fait, pour même le conseiller, pour améliorer sa situation. Mmh. Et j'ai passé du temps à lui ouvrir un compte, et puis sur Boursorama, il n'y a rien d'incroyable. Mais je lui ai dit, écoute, vu que c'est un ami que j'aime beaucoup, je lui ai dit, écoute, la petite prime de parrainage, je te la remets dès l'ouverture du compte. Et comme ça, et puis je lui ai dit, je te donne même une prime d'amis en plus, comme ça, ça te donnera envie de mettre de l'argent de côté, et puis au moins tu vas commencer à faire des choses un peu plus sérieusement et tu vas construire voilà, une épargne de sécurité, même que ce soit pour tes enfants futurs ou même si un jour vous avez un projet immobilier. Et je lui dis, tu vas voir, tu vas dormir tellement plus sereinement quand
C'est clair.
tu seras dans ton lit le soir. Et si jamais tu traverses une période difficile, bah tu seras serein, tu seras tellement plus serein avec un petit pécule de côté. Et je suis tellement conscient du bien que ça fait que je lui donnais de l'argent en fait pour qu'il se lance vraiment à fond. Je vais essayer de le challenger et voilà, de lui donner des objectifs. Et moi, ça, je le fais sans problème. J'invite des gens à la maison, je les invite à boire un coup à la maison, à leur
Bien
faire
sûr.
des petits repas. Ça m'arrive aussi d'inviter au restaurant. Je ne suis pas, je me considère pas comme radin. Et même, justement, je donne parce que justement, je suis conscient que j'ai mis un peu plus de côté, que c'est un peu plus dur des fois pour les autres parce que. Ils sont pas forcément pris les bons réflexes dès le départ, mais moi personnellement, je me considère pas comme radin parce que je le sais au fond de moi que je donne, que j'ai des très bons amis, et j'essaie d'entretenir ces relations que j'ai avec eux, et même tous les jours en fait, maintenant je suis dans un travail qui est un peu critiqué. Je travaille à la SNCF en ce moment. Je donne beaucoup de mon temps pour
Tu fais
aider
quoi à
les
la
gens.
SNCF?
Alors, je travaille dans l'accueil embarquement de la SNCF
D'accord.
à Toulon.
Ouais.
Et j'accueille les gens, je les conseille. Et
Ouais.
puis, je m'occupe un peu de la sécurité aussi de l'embarquement. Enfin, parce qu'un
Ouais.
embarquement, tu as beaucoup de gens qui passent.
Ouais.
Tu as des gens qui sont mal intentionnés et qui veulent prendre le siège de d'autres personnes. Et moi, en fait, mon boulot, c'est voilà, c'est bien sûr de trier ces gens et en même temps je conseille et je rassure des gens qui prennent le train tous les jours et je suis conscient que des fois je m'investis même beaucoup plus malgré que je suis sur mon temps de pause ou quoi que ce soit je donne beaucoup plus de mon temps pour rassurer les gens et pour les conseiller voilà si j'étais vraiment radin je ne perdrai pas mon temps avec les gens. Voilà, je me limiterai vraiment au strict nécessaire et puis je rentrerai chez moi. Mais bon, je ne pourrais pas me regarder le soir dans la glace, quoi.
Ouais,
J'aurais
c'est
du mal à me
évident.
regarder. Là, je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise. J'ai eu des fois affaire à des gens qui m'ont dit, tu es radin. Mais
Oh bah
je
moi
suis
aussi,
radin,
hein.
mais pour quelle raison ces gens-là, ils le pensent? C'est parce que j'ai de l'argent sur mon compte, c'est pour ça. Et des fois, ça gêne, en fait. Les gens, ils apprennent que tu as un peu d'argent sur ton compte. On va te dire que tu es radin parce qu'ils ne comprennent pas qu'eux-mêmes, ils auraient pu faire ces choix de vie et eux-mêmes, ils auraient pu faire cet effort d'épargne. Et pour certains, c'est dur à accepter. C'est vraiment très compliqué pour eux de se remettre en question et de se dire ben, qu'eux-mêmes, ils auraient pu le faire et malgré leurs petits moyens. Ils auraient pu le faire aussi. Et ça, c'est dur à accepter.
Ah oui, mais
Et
tu
ça,
sais,
j'en suis
ça
conscient.
c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé, hein. Par
Bien
exemple, je sais pas,
sûr.
tu vas avoir une bagnole, tu vas avoir un type qui est en train de conduire une jolie voiture, bah, tu vas avoir les réactions qui vont se dire salaud de riche, tu vois, et puis tu vas avoir la réaction qui va se dire ben ok, mais peut-être on ne sait pas tout ce qu'il a mis en œuvre pour pouvoir s'offrir, se jouer.
Bien sûr. Bien
Ou
sûr.
dans une moindre mesure, bah tiens, lui, il peut passer plus de temps avec sa famille, etc. Et bah, de la même façon, voilà. En fin de
Je
compte,
suis
vas-y.
très admiratif des gens qui ont une belle voiture ou
Ouais.
même une certaine situation, justement quand je les vois dans la rue,
Ouais, bien
bien une
sûr.
belle chemise, une belle situation, quoi que ce soit. J'ai plutôt tendance à dire félicitations, bravo à toi. Je me doute que
Comment t'as fait?
Tu as dû souffrir pour en arriver là ou que tu as vraiment dû avoir du
Non,
mal,
pas
même si
forcément.
ça se trouve, c'est
Ouais.
peut-être pas forcément vrai, mais déjà moralement et même mentalement,
Ouais.
tu donnes du positif en fait à ces gens-là et du coup, ils sont contents,
C'est
ils
une
se sentent
question de
prêts
posture avec
pour
laquelle tu
travailler.
vas aborder les choses, c'est ou bien tu vas être jaloux, et on peut tous être jaloux à un moment donné, faut être honnête. Ou tu peux essayer de te dire, ah bah tiens, je vais essayer de comprendre ce que cette personne elle a fait. Alors peut-être que c'est vrai qu'il a gagné au loto ou qu'il a hérité, mais peut-être aussi qu'il a monté un business et que ce
Bien sûr.
business, il a marché. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile
Voilà.
de porter un jugement sur les gens qui ont une réussite sociale comme ça, quoi.
Pas juger trop vite parce que on peut pas savoir ce que la personne a vécu dans sa vie. Et puis
Certainement.
Même partir du principe que si déjà on félicite la personne et qu'on essaie de comprendre comment elle en est arrivée là, on peut nous aussi en arriver au même statut et à la même vie en partant sur son expérience. On peut déjà se créer la note, mais même en l'améliorant, on peut s'en inspirer et essayer un jour d'avoir le même statut, la même voiture, peu
bien
importe
sûr.
L'objectif finalement, mais c'est voilà, c'est féliciter les gens. Des fois, ça fait du bien même de féliciter les gens, mais que ça soit vraiment sincère, que ce soit pas faux, que ça soit sincère. Bravo, bien joué pour cette promotion, bravo pour ce poste. Ça fait plaisir aux gens.
Je voudrais te demander un truc, c'est bon, alors tu m'as expliqué que tu arrives dans ton couple, vous arrivez à épargner une bonne somme d'argent chaque mois. Vous faites quoi? Tu l'investis? Tu fais que l'économiser? Tu comptes en faire
alors,
quoi? Dans le dur, ça se passe comment?
Alors, dans le dur, comment ça se passe? Moi, tous les mois, suivant les mois, parce que des fois, ça varie, parce que des fois, on se fait un peu plus plaisir que d'autres mois. Je me force déjà à mettre de l'argent de côté tous les mois sur une assurance vie. Ça, c'est sûr, j'ai une somme qui part tous les mois sur l'assurance vie.
D'accord.
Et après, je mets une somme, moi, personnellement, que je décide, je stocke pour le coup sur mon compte pendant un certain temps.
Mmh.
Et puis après, que j'envoie sur mon compte titre aussi, parce que j'ai un compte titre et une assurance vie.
D'accord.
Avant, j'étais très investi sur l'assurance vie parce que c'est le premier placement quand j'étais jeune, enfin quand j'étais,
ben oui,
j'avais
évidemment.
18 ans, que j'ai ouvert parce que c'était la chose la plus simple qui s'ouvrait à moi. Aujourd'hui, avec mon assurance vie, bon, j'ai eu, il me semble, c'est 4 500 € avec mon assurance vie parce qu'au fur et à mesure du temps, ben, elle m'a rapporté des intérêts.
Bien sûr.
Mais dernièrement, avec la crise que nous avons connue, j'avais déjà un intérêt fort pour créer un compte titre. Et je m'étais préparé déjà mentalement, et puis même j'avais mis de l'argent sur mon assurance vie, sur le fonds en euros que j'attendais au cas où il se passait vraiment quelque chose de grave.
Mmh.
Et je m'étais, voilà, je m'étais préparé, je m'étais dit, voilà, je m'étais créé un plan déjà dans ma tête.
Mmh.
Et dès que la crise est arrivée, j'avais déjà le compte titre qui était déjà ouvert.
Mmh.
J'ai tout de suite, en fait, investi une certaine somme d'argent, hein. J'ai pas perdu de temps, hein. J'ai investi une somme d'argent, j'ai attendu que ça se casse bien la gueule.
Mm-hmm.
Et j'ai investi en fait beaucoup d'argent, ce que j'appelle beaucoup d'argent, j'ai mis à peu près 11 000 € sur ce compte titre,
mm-hmm.
D'un coup. Et au bout de un an et 3 mois, en fait,
ouais, t'as pris quoi, 30%?
J'ai eu 9 000 € de plus-value.
Wow.
Avec 11 000 €. Et c'est là où déjà on prend une certaine claque parce que on pense en fait à ce que l'assurance vie comme alors c'est bien l'assurance vie, ça y a
non, c'est
dire.
Pas bien.
Il y a non mais c'est bien pour ceux qui ne font rien ou qui laissent sur un livret A. Je vais pas dire que c'est mal parce qu'il y a des gens qui mettent ça sur un livret A et avec l'inflation ben ces gens-là perdent de l'argent.
Ils
ça,
vont se faire
triste.
Essorer, ils vont
voilà.
Se faire complètement liquider et l'assurance vie fonds euros, c'est pas suffisant.
Pas suffisant et c'est pour ça que d'ailleurs que je retire tout doucement mes billes de l'assurance vie parce que je m'aperçois que le compte titre que j'ai fonctionne vraiment très très bien. Ma façon de sélectionner les actions fonctionne très très bien aussi.
Donc tu fais quoi? Tu choisis plutôt
vois
des valeurs à dividendes ou des ETF?
Alors j'ai une partie à dividendes, alors j'ai quelques actions qui m'apportent des dividendes,
mm-hmm.
mais après sinon c'est des grosses entreprises dans lesquelles j'investis et j'attends aussi que ces entreprises soient souvent sous-évaluées parce que y a des gens qui vont me dire oui, mais tu investis au meilleur moment quand c'était la crise, mais pas seulement, parce que des fois il y avait des entreprises dans lesquelles j'ai investi qui étaient juste sous-évaluées. Et j'ai mis de l'argent en fait dans ces entreprises-là, et puis j'ai pu faire des 30%, 40%.
Wow. Quel genre d'entreprise, tu as des noms à donner
Par exemple, Dropbox.
Ouais.
Dropbox qui est vraiment peu connu, ou qui est connu par la plupart des particuliers, mais ce n'est pas une des actions à laquelle on pense le plus.
Ah non, là, j'aurais jamais pensé à ça, non.
Voilà, et puis Dropbox a explosé. Mmh. Après, j'en ai plusieurs autres aussi, mais je ne vais pas rentrer peut-être dans les détails.
Non, ce n'est pas le but non plus. Non.
Si après, parce que je compte peut-être ouvrir du coaching par rapport à ça.
Il donnera ses informations au coaching.
Et peut-être, je donnerai mes informations raison. Parce que j'aimerais bien vivre de ça un jour.
Bien sûr.
Puis j'aimerais le faire, tu vois, tu m'as un peu inspiré quelque part, de par ton parcours.
Ah, c'est gentil.
Et aujourd'hui, je me dis, ben, pourquoi pas moi ? Pourtant, j'ai que 28 ans, mais j'y pense de plus en plus. Et j'adore mon boulot, hein, pourtant. J'adore
Bien
mon
sûr.
Boulot, mais j'ai cette envie, en fait, d'entreprendre et de... Voilà, de donner des petits conseils.
Bien sûr.
Même
et
si
puis,
ça ne me rapporte pas grand-chose, mais moi, je serais heureux de l'avoir fait.
Mais bien sûr. Et puis, il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas de mal à ça, quoi. Tu consacres du temps à des gens, à une communauté, tu essayes. En fait, si tu veux, le truc, c'est que tu apportes de la valeur aux gens. C'est ça, surtout. Il y a des personnes dans mon programme d'investissement, de formation et d'accompagnement, pardon, qui ne savaient pas du tout comment investir, et je leur ai appris à faire de l'investissement immobilier locatif, rentable. Je leur ai appris à gagner de l'argent au travers de leur plan épargne-action. Je leur ai appris à gagner de l'argent de plein de manières différentes, avec les crypto-monnaies, avec du cashback, de plein de manières, tu vois. Sans rien négliger, sans jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en fin de compte, j'avais commencé à faire ça, mais c'est marrant parce que juste avant qu'on discute, j'étais en rendez-vous avec une personne qui veut rentrer dans le programme, et je lui ai expliqué justement que je voulais pas faire ça comme juste une formation, une recette de cuisine, mais je voulais essayer d'apporter de la valeur en plus. Et ça, du coup, ça passe par le temps que tu vas consacrer à chaque personne, et essayer de proposer un service qui soit individualisé, sans jouer les conseillers en investissement, tu vois. Parce que ce n'est pas le but de dire il faut faire ci, il faut faire ça, mais en présentant des opportunités qui peuvent être intéressantes, et puis en essayant vraiment d'éduquer les gens à l'investissement, à l'argent. Ça, c'est hyper important, c'est essentiel. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que quand tu as des gens qui reviennent vers toi et qui te disent mec, merci, enfin, je ne sais pas comment t'expliquer, c'est.
Oui,
c'est hyper gratifiant.
Plaisir,
c'est hyper, hyper gratifiant. C'est
sûr.
Hyper gratifiant.
Le sentiment de se dire, quelque part, j'ai réussi ma mission. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que quand j'aide quelqu'un, même sur les finances, ou je me dis, j'ai fait ce que j'avais à faire, et j'ai le sentiment d'avoir, même s'il n'y a pas d'argent en jeu, même si je gagne rien, j'ai ce sentiment d'avoir donné un bon conseil et puis d'avoir apporté quelque chose d'important. Et puis,
ouais.
Je trouve que c'est la meilleure, enfin, c'est pas la meilleure des récompenses, parce que bien sûr, il faut qu'on mange à la fin du mois, bien sûr. Donc, il faut forcément qu'il y ait un salaire derrière ça.
Sinon,
on ne peut
pas
donner de conseil.
Bah, tout à fait. Puis même, gagner de l'argent, c'est gratifiant.
Bien sûr.
Gagner de l'argent, c'est tout à fait gratifiant. C'est une manière de justement valoriser ce que ton travail, la valeur que tu apportes aux autres, bien entendu. Ok,
bien
cool.
Mais pour te donner un autre exemple d'action que j'ai acheté pendant le coronavirus, j'ai acheté par exemple une action Google. Et je l'ai acheté pile au moment où elle s'est vraiment le seuil le plus bas, en fait, si je peux faire.
Waouh, quand elle s'est viandée.
Ouais, elle s'est vraiment viandée. Alors, j'essaie d'avoir juste sur mon broker, je vais essayer d'avoir l'information, le prix exact.
D'accord.
Et bien, c'est simple, j'ai fait 100, 119%.
Incroyable.
En plus.
T'as fait un fois deux.
Voilà.
T'as fait plus
fait
qu'un fois deux.
Sur une entreprise qui déjà me plaît. Et moi, c'est comme ça que je raisonne un peu quand j'achète des actions. C'est il faut absolument, avant toute chose, qu'elle me plaise. Et que c'est une action que je me vois voilà, détenir pendant très longtemps. Mmh. Et déjà, si on est en accord avec ce que représente l'entreprise, et puis on a l'impression de participer à l'entreprise, déjà, on est sujet à ne pas être trop stressé si jamais l'action vient à descendre ou quoi que ce soit. Et moi, c'est vraiment quelque chose déjà que ça, j'applique. Mmh. Dans toutes les entreprises dans lesquelles j'investis, je fais attention à ça. Il faut absolument que je sois en accord. Par exemple, si je devais mettre de l'argent dans Total, moi, personnellement, Total, ce n'est pas forcément une entreprise que je porte dans mon cœur. Je sais qu'il y en a beaucoup d'investisseurs qui adorent cette entreprise. Mmh. Et ça, il n'y a pas de souci. Hein. Chacun voit midi à sa porte. Mais moi, personnellement, je ne serais pas rassuré. Et puis même, je ne me sentirais pas forcément bien d'avoir une action Total dans mon portefeuille. Donc voilà, je sélectionne des entreprises que je connais, que je sais ce qu'ils font dans leur business. Et puis, voilà, j'établis voilà, des petites choses simples, des petites règles simples que je me mets en place et pour être prêt à les garder pendant des années, pour les garder 5 ans, 10 ans. Là, les actions que j'ai actuellement, j'essaie de les garder minimum 5 ans. Et du coup, je peux t'assurer que des fois, j'ai connu des moins 600 euros, moins 800 euros sur mon titre. Mmh. J'ai dormi très, très, très bien parce que justement, je savais que c'était des entreprises de grande valeur, qu'elles allaient se redresser et que peu importe ce qui se passait actuellement sur le marché, je crois en fait aux fondateurs, je crois...
Oui, bien sûr. Et puis même quand on rentre là-dedans, en général, on va commencer par mettre des sommes. Comment dire, tu ne vas pas mettre des sommes qui sont cruciales pour toi vivre.
Bien sûr, voilà. Bien sûr. J'ai mis de l'argent. Ce n'est pas vraiment de l'argent que je... Parce que je ne suis pas prêt à perdre cet argent, j'attends quand même.
Non, parce que tu sais, tu as des personnes
qui disent c'est pas de l'argent crucial.
Non.
C'est pas de l'argent que j'ai besoin pour me nourrir demain. Voilà, c'est de l'argent qui est sur mon compte, que je préfère qu'ils travaillent cet argent à ma place, parce que chaque euro qui travaille pour nous, c'est triste à dire, mais c'est comme si c'était un employé qui travaillait pour nous et qui nous permettait de vivre un peu plus tranquillement. Et si déjà on part de ce principe-là, déjà on voit les choses d'une autre manière que plutôt laisser de l'argent entraîner sur un compte et qu'il perde de la valeur. Moi, je pars du principe que si l'argent reste sur le compte, c'est comme si finalement je m'appauvrissais.
Il va se faire défoncer là, de toute façon.
Ouais, il va... c'est ça. Et ce qu'on oublie avec l'inflation, surtout, c'est que on a l'impression de garder un certain salaire tout au long de notre vie, mais ce salaire-là ne vaut plus du tout ce qu'il était il y a 10 ans en arrière, et chaque chose va coûter de plus en plus cher, et on a l'impression de ne pas avoir perdu d'argent, mais on s'appauvrit hein, littéralement chaque année, de plus en plus, et ça, malheureusement, si on ne fait rien, dans 10 ans, dans 20 ans, les gens qui seront au SMIC seront encore plus dans des positions désagréables et la vie s'annonce vraiment, vraiment beaucoup plus difficile.
Bien sûr,
tu sais,
j'avais fait un live la fois dernière sur YouTube et, où on parlait d'inflation et j'avais été sur un site que je vous recommande à tous d'aller consulter qui s'appelle France Inflation, qui est un look un peu vieillot, pas très sexy, mais dedans, il y a des outils qui sont formidables, notamment... un calculateur d'inflation. Et donc, en fait, il permet d'actualiser une somme à date. Et je m'étais amusé à actualiser une somme, je crois, 100 000 balles en l'an 2000 pour voir ce que ça donnerait en 2021. Et en inflation cumulée, on est à plus que 30%.
Voilà.
Ce qui veut dire que si tu avais tes 100 000 balles, que tu as économisé, machin, toutes tes économies, ou l'héritage de je sais pas quoi, que tu gardes précieusement sur un compte et que tu n'oses pas y toucher, si tu n'y touches pas, entre 2000 et aujourd'hui, c'est la valeur de cet argent a diminué de 30%. C'est-à-dire que tu as toujours la même somme d'argent, mais tu peux t'acheter 30% moins de
choses.
Son pouvoir d'achat a diminué de 30%.
Donc, ouais, il a littéralement fondu comme neige au soleil. C'est extrêmement pervers. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'entre 2000 et 2021 à date, on a eu des inflations quasiment faibles, quoi. Je veux dire, on était dans les clous à peu près des recommandations de l'Europe, à savoir une inflation d'à peu près 2-3% par année. Là, c'est pas la réalité à laquelle on s'expose dans les temps qui viennent. Donc, moi, j'incite vraiment... j'incite rien, mais je pense que c'est bien d'envisager une dette, par exemple, aujourd'hui, peut-être de s'endetter pour faire un investissement immobilier locatif, puisque bah, chaque mois, tu vas rembourser la même somme d'argent à la banque. Mais en revanche, la valeur de cet argent, elle sera de moins en moins, tu vois. S'il y a une inflation en face, ce sera théoriquement de plus en plus facile à rembourser, puisque tu vas monter tes loyers au vu de l'inflation. Moi, c'était ma stratégie, une de mes stratégies d'investissement à la base, c'était de me dire que si je pars sur un emprunt long, sur 25 ans, bah, dans 25 ans, ce sera beaucoup plus facile de rembourser mes traites à la banque. Alors que dans 25 ans, enfin, ou même au bout de 20 ans, théoriquement, j'aurais largement augmenté les loyers. Donc ça, c'est des manières qui sont très efficaces pour réussir à s'enrichir à long terme, mais malheureusement, c'est des process qui sont lents, donc il faut trouver des astuces pour accélérer tout ça.
Vraiment, il faut insister là-dessus, c'est et les gens qui vont nous écouter là, dans cette interview, prenez vraiment pas à la légère vos finances, et puis faites-les travailler de différentes façons. Vous allez voir, vous allez vous y prêter au jeu, et puis vous allez... Moi, franchement, des fois, quand je m'ennuie, je vais sur mon ordi, je regarde d'autres différents placements que je pourrais faire. Et à la fin, ça devient un jeu. Et c'est super agréable de
attention,
voir...
Attention, un jeu, disons que c'est ludique, mais...
Oui, c'est ludique.
C'est pas le casino.
Aujourd'hui, enfin non, c'est pas du tout le casino. Alors, il faut faire attention à ce qu'on fait, ça, c'est sûr. Mais disons que ça devient un plaisir déjà de voir que notre argent, voilà, ils ne font pas, comme tu l'expliquais, au soleil. Et de prendre plaisir, du coup, à avoir de la stabilité dans sa vie, d'être un peu plus sûr. Et même, vous allez vous sentir mieux, quoi. C'est une certitude. Moi, combien de fois j'ai quitté mon emploi parce que mon emploi soit ne me plaisait pas, soit parce qu'il y avait certaines choses, voilà... patron qui me demande de faire quelque chose et puis j'avais l'impression qu'il me prenait pour un imbécile, ça ne me gênait pas du tout de quitter la boîte parce que j'avais mon fonds de côté, j'avais ma sécurité, je pouvais dire non en fait. Et ça, c'est la plus belle des choses que vous avez, c'est de pouvoir dire non, de pouvoir dire j'ai de l'argent, je peux me permettre de faire les choses qui me plaisent en fait. Je peux du jour au lendemain partir en voyage si je regarde même pas combien ça me coûte. Je peux partir en voyage si j'ai envie. Je peux dire non à mon patron parce que j'estime que ce qu'il me dit ça me plaît pas. Ou
si je n'ai plus de revenus demain matin, je peux tenir plusieurs mois d'être dans une galère noire.
Ouais, la tranquillité d'esprit, c'est
tranquillité d'esprit. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Tu sais, je pense toujours. J'espère qu'un jour on saura vraiment leur rendre hommage à ces pauvres gens. Les 19 personnes qui se sont suicidées chez France Télécom en 2 ans. Parce que, je rappelle rapidement la petite histoire. Hein. En 2004, c'est l'État qui réduit sa part de participation dans France Télécom, ce qui fait que le coup retombe, l'entreprise est privatisée. Et donc, il va falloir transformer cette entreprise. Donc, on met un mec de Bompard dont le rôle, ça va être d'opérer la transformation France Télécom pour qu'elle devienne Orange. À l'époque, évidemment, c'était un fleuron national. Et puis, bah, du coup, ils ont mis en place un plan stratégique. J'ai oublié le nom, je le rappelle dans le livre, mais ça me reviendra. Qui était censé virer une quantité phénoménale de personnes. J'ai peur de dire une bêtise sur les chiffres, mais il me semble que c'était 26 000. Et le patron qui avait eu cette parole malheureuse en disant, dans une des réunions, je les ferai partir par la porte ou la fenêtre. Donc pour ça, ils ont mis en place des stratégies de pression au sein de chaque service pour pousser un maximum de personnes à démissionner, parce que quand ils démissionnent, du coup, ils ne percevaient pas de chômage, il n'y avait pas d'indemnité à leur verser. Donc ils ont fait ça, et du coup, ça s'est apparenté à une forme de pression et de harcèlement sur sur ces personnes-là. Donc, dans la pratique, ça se manifestait du genre, t'arrivais dans l'open space le matin, et puis, en fait, il n'y avait pas assez de chaises. Donc, voilà, t'as qu'à arriver plus tôt. Ouais, tant pis, il n'y aura pas de chaises
pour toi. Ça, c'est horrible. Et ça, franchement, si vous êtes dans cette situation-là, justement, on prévoyait un plan de...
Ah ouais, mais attends, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu des mecs, des ingénieurs, donc, qui avaient 30 ans de boutique. Donc, t'imagines, les mecs, ils ont donné les plus belles années de leur vie à cette boîte, quoi. Et du jour au lendemain, on les a envoyés faire du phoning, tu vois. On les a envoyés en centre d'appel pour faire du phoning. Donc, les gars, ils pétaient un boulon parce qu'ils avaient une compétence exceptionnelle qui était sous-valorisée, mais qui, en plus, était carrément méprisée, quoi. Et puis, il y a eu plusieurs scandales de suicide. Et donc, il avait déclaré à la presse en conférence qu'il fallait mettre un terme à cette mode du suicide. Donc, ça, c'est pas passé, hein, comme si c'était une mode. Alors, il a essayé de se raccrocher aux arbres quelques jours plus tard en disant que non, il voulait pas dire mode, il voulait dire le mood. Tu vois, c'est... Bon, ils ont été condamnés, hein, pour harcèlement. Ça doit passer en appel, quand même, mais voilà, la justice, elle s'en est mêlée. 19 personnes qui se sont suicidées. Il y a eu plus de drames encore, parce qu'il y a eu des personnes qui ont été en dépression grave, et en fin de compte, c'est des familles qui ont été brisées, enfin, je ne vais pas te faire un dessin, quoi, t'imagines le cauchemar. Et ce que je me dis toujours, c'est que peut-être, je n'ai pas la réponse, mais peut-être ils auraient pu s'épargner ce truc-là, tu vois. S'ils avaient eu... suffisamment d'oseille, s'ils avaient eu suffisamment de sources de revenus sur le côté pour dire, non, c'est tout, c'est pas ça la vie, quoi. La vie, elle s'arrête pas à ma boîte, quoi, tu vois.
C'est triste à dire, mais j'ai mon papa qui faisait partie d'un grand groupe, mais d'un groupe industriel il y a quelques années de ça. Mm-hmm. Il a subi un chômage technique, c'est pas un chômage, si, économique, excuse-moi.
Oui.
Économique, il n'y a pas si longtemps. Mm-hmm. Et il lui reste 3 années de travail pour atteindre la retraite.
Oui.
Et aujourd'hui, il galère à trouver un. Et pourtant, il a des compétences, il était cadre, il travaillait à l'étranger, il travaillait sur des grands barrages, sur des machines industrielles, mais genre vraiment immense, il faisait tout lui-même, des plans, il contrôlait des employés pour manager les travaux et tout ça.
Mm-hmm.
Et aujourd'hui, cet homme que j'aime beaucoup, parce que c'est mon papa, galère justement à retrouver du boulot à son âge, parce que en fait aujourd'hui on est dans un système où plus personne veut le prendre parce que tout le monde a peur de payer une prime départ à la retraite. Et je trouve ça d'une grande stupidité parce que on a des gens qui ont envie de bosser, des gens à qui on leur a vendu
ils peuvent pas,
un rêve de retraite parce que la génération de mes parents, c'est normalement ils sont censés avoir travaillé toute leur vie, puis normalement ils ont à la fin de leur vie ils ont droit à la retraite. C'est quelque chose qu'on leur a vendu, leur vie elle a été basée sur ça toute leur vie.
Bien sûr.
Donc ils se sont adaptés en fonction de ce système là et aujourd'hui ils se retrouvent à 3 ans de la retraite, il a plus de boulot et il peut pas prétendre sa retraite, il peut pas la prendre, enfin si, je pense qu'il peut la prendre avant, mais c'est pas du tout intéressant. Et du coup chaque année où il trouve pas un boulot, c'est de l'argent qu'il perd parce que finalement il se rapproche de plus en plus de
l'échéance,
de l'échéance, et puis il se rapproche d'un âge où il va tomber malade beaucoup plus facilement. Mm-hmm. Et donc finalement cette retraite, peut-être qu'il la verra peut-être jamais, ou peut-être qu'il pourra pas en profiter suffisamment, enfin, et je trouve ça vraiment triste. Et
ouais.
Et je trouve que aujourd'hui dans notre société et à l'époque dans laquelle on vit, il ne faut plus croire en la retraite, à part si vraiment on a une situation incroyable. Et même, j'y crois même vraiment pas. Vraiment, je dis à tous les jeunes que je vois même des jeunes de mon âge. Hein, je
crée-toi dis, ta retraite, mais, sinon t'es mort.
Voilà, crée-toi ta retraite, sinon tu es, c'est pas que t'es foutu, mais sinon tu vas vraiment avoir du mal.
Tu vas te retrouver dans une situation de dépendance où en fait la valeur, alors je sais pas, je comprends rien à ce qu'ils veulent faire avec des systèmes de points, enfin bref. Mais en fait, ils vont décider de la valeur du point, donc en fin de compte, tu seras toujours dépendant de quelqu'un, ce sera une aide, tu vois, voilà, tu seras comme ça à dépendre de ça, et à se mettre dans une situation de dépendance, c'est se mettre dans une situation de fragilité. Je pense que j'apprends rien à personne.
Moi, je pense sincèrement qu'il vaut mieux aujourd'hui créer sa retraite de soi-même, pour éviter que plus tard, à 60 ans ou à 50 ans, on se retrouve sur un rond-point à manifester. Après, il y a des gens, ils ont des bonnes raisons de manifester, mais...
Là, oui, je suis d'accord. Attends. Il y a des gens qui manifestent, qui ont des sacrées bonnes raisons. Hein.
Oui, il y a des gens qui ont, bien sûr. Mais par contre, sur tout ce qui est retraite et tout ça, c'est des choses, malheureusement, qu'on a promis à ces gens-là. Et aujourd'hui, la meilleure des façons de se protéger vers des gens qui te mentent et qui te disent voilà, la retraite on l'a poussé, on l'a encore repoussé parce que désolé, on peut pas le faire. Moi je trouve que la meilleure des façons de se protéger, c'est voilà, de se créer sa propre sécurité soi-même, et pour bon, pas perdre du temps à dire ah ouais, vous avez pas fait votre boulot, et à essayer de voilà de manifester, parce que c'est bien de manifester, mais il y a des fois il y a, je trouve que j'ai l'impression qu'ils n'écoutent pas, de toute façon, les gens qui manifestent. Et même si le pays aujourd'hui est bloqué par plein de manifestations, moi aussi, hein, je respecte ces gens qui manifestent, qui donnent de leur temps justement pour faire entendre leurs paroles. Mais j'ai l'impression que les gens qui sont en face d'eux, en fait, ne les écoutent pas, en fait. Et je trouve ça tellement triste. Et je souhaite à personne d'être dans cette situation-là, de devoir se battre à ce point-là pour pouvoir se faire entendre. Je préfère que les gens s'investissent dès le départ dans leurs économies et dans leur sécurité, de façon à être plus tranquille plus tard et de jamais à devoir connaître ce genre de manifestation à se risquer de se prendre un flashball dans la tête.
C'est clair, c'est clair.
Je trouve ça hallucinant, mais bon. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, on leur a promis quelque chose toute leur vie, ils attendent juste d'avoir cette promesse, et je trouve ça tellement triste, ces gens qui attendent, et qui n'ont pas forcément prévu de mettre quelque chose de côté, parce qu'ils se sont dit, moi, quand j'aurai la retraite, je pourrai enfin profiter, je pourrai enfin me faire plaisir. Je trouve ça tellement triste. Alors que si peut-être qu'ils avaient mis peut-être un petit pécule de côté chaque mois, vraiment une toute petite somme, peut-être qu'aujourd'hui, même avec ces difficultés aujourd'hui qu'on a, peut-être qu'ils auraient été plus souples et peut-être qu'ils auraient accepté les choses différemment.
Certainement. Bon, à titre personnel, c'est vrai que je ne fais pas de politique et je ne parle pas de politique, mais je pense que c'est évident que... Et je pense que c'est peut-être même encore plus important quand on a des petits revenus d'épargner et d'essayer de au moins un minima de se constituer un fonds d'urgence pour tenir en cas de galère, quoi. Je pense que c'est encore plus important, et c'est pas facile, hein, mais à minima 10%, c'est le fameux payez-vous en premier.
Si vous pouvez augmenter ce 10% et de voilà de vous faire plaisir, alors le but c'est ça, hein, c'est de se faire plaisir et d'apprendre les petits plaisirs de la vie qui ne coûtent pas forcément grand-chose, justement de valoriser ces petits plaisirs-là et de mettre un maximum d'argent de côté sans trop non plus... il ne faut pas se priver.
Moi, je refuse de me priver, tu vois. Et le truc de dire, frugaliste, retraite à 40 ans, tu te sens la vie, c'est tout, machin. C'est des conneries. Excusez-moi, mais il faut appeler un chat un chat. C'est des conneries. Vivez. Ta fameuse retraite à 40 ans, si tu ne la prends pas à 40, mais à 50, mais qu'entre-temps, t'as quand même réussi à avoir un mari ou une femme, des gosses, et puis à être heureux, et à partir en vacances.
T'as réussi ta vie.
Tout simplement, enfin, je sais pas, tu vois, un peu de bon sens quand même. Moi, je refuse de me priver.
Ça, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Et ça, franchement, je ne dirais jamais à quelqu'un qu'il faut se priver ou quoi que ce soit. Il faut juste savoir ce que c'est un achat compulsif, un achat qui n'est pas forcément nécessaire. Mais après, le reste, que ça soit se faire plaisir, un voyage, ouais. C'est, ça, c'est des expériences qui sont incroyables et qui méritent d'être vécues. Et
bien sûr, tu sais, moi, j'avais eu... C'était Envoyé Spécial qui m'ont contacté parce qu'ils voulaient faire une émission là-dessus sur les gens qui veulent s'arrêter de travailler le plus vite possible. Et donc, j'explique à la fille tout ce dont on est en train de parler, tout ça, tu vois, je leur envoie même une copie du livre. Donc, je veux dire, je partage vraiment avec eux ma vision de ça, quoi, tu vois, de l'indépendance financière. Et je lui explique, j'insiste bien sur le fait qu'il ne faut surtout pas se serrer la vis, parce que la vie, elle est courte, elle passe qu'une fois, et que, si c'est pour être retraité, mais rincé, ou même malade, je vois pas trop l'intérêt, quoi.
Pour te la faire... Ça va créer de la frustration, en fait.
Évidemment,
ça va
évidemment.
De la jalousie, ça va créer plein de choses négatives, en fait.
C'est clair.
Si en fait, on se prive, c'est encore pire, en fait. C'est un effet dévastateur, que ce soit sur les gens qui nous entourent. Il ne faut pas se priver non plus.
Évidemment. Et donc, on discute de tout ça, machin, je lui donne ces infos. L'été passe, elle revient vers moi en septembre parce que en gros elle voulait que je lui fasse son casting, quoi, que je lui ramène des personnes qui vivent un mode de vie frugaliste, tu vois. J'aurais très bien pu penser à toi, justement. Mais sauf que dans son email, elle me demande bien des gens, je te jure, c'est écrit noir sur blanc, j'étais mort de rire, qui se serrent la vis pour prendre leur retraite le plus vite possible.
Oh.
Et là je me dis, mais putain, mais en fait j'ai perdu mon temps, quoi. J'ai passé deux plombes avec elle au téléphone à lui expliquer le truc en long, en large, en travers. Je lui envoie mon bouquin. J'ai fait je sais pas combien de vidéos sur YouTube pour parler de ça et tout, tu vois. Et la meuf, elle revient vers moi en disant qu'elle veut... Parce que, si tu préfères...
Ouais, ça fait des débats, ça fait...
Et puis c'est toujours rigolo à la caméra, c'est toujours rigolo à la caméra de voir un mec qui bouffe des nouilles et des coquillettes alors qu'il gagne très bien sa vie, tu vois.
Même c'est son choix, même si la personne elle fait ça.
Et quand bien même, je suis tout à fait d'accord, et quand bien même, voilà, il a envie de faire comme ça,
c'est son choix, en fait.
C'est que le curseur, en fin de compte, et d'ailleurs je vous le dis à toi qui nous écoute, le curseur, il n'y a que toi qui le fixe, il n'y a que toi qui a le droit de le fixer, et personne n'a à te dire quoi que ce soit sur ta façon de vivre.
Bien sûr.
Ce qui est important, encore une fois, c'est que tu ne sois pas dans une situation de souffrance où à un moment donné tu puisses être amené à regretter certains de tes choix, quoi. Voilà, c'est tout. Et au demeurant, moi je me prive pas non plus, mais effectivement, comme on en a parlé, je préfère mettre l'accent sur des moments, tu vois, des moments qu'on va se faire plaisir. Tu parlais d'un resto ou des vacances au ski, à la neige, pourquoi pas, plutôt que des jouets qui vont perdre de leur valeur, quoi. C'est tout. Déjà, adopter cette manière de voir les choses, la vie. Déjà, tu fais un sacré bout de chemin. Hein. Je pense. Hein.
Okay. C'est un truc de fou de savoir que les médias essayent de faire du mal, en fait, à ce mouvement qui se crée, parce que à travers ce mouvement, il y a quand même des gens qui sont très intéressants.
Ouais.
Et ils veulent juste se moquer un peu du mouvement. Et ça, je trouve ça, mais c'est nul. Enfin, vous êtes, en fait, de vouloir critiquer les gens. Enfin, moi personnellement, quand quelqu'un m'explique sa façon de vivre, je vais pas avoir de jugement de valeur de comment il fait sa vie. Après, s'il a envie de savoir comment atteindre tel ou tel objectif, bien sûr que s'il me demande à moi, je vais me permettre de lui répondre. Mais après, s'il est heureux comme ça, je vais pas m'imposer, lui dire t'es un loser, de qui je suis pour dire que les gens sont...
Adrien, moi, j'ai bossé presque 20 ans pour des télés, donc ils aiment bien, il faut que ça fasse de l'audience,
il faut que ça fasse
des commentaires, il faut que ça buzz, il faut que ça repasse sur YouTube, Twitter, machin, il faut que ça passe là-dessus et tout, machin. Mais si, c'est comme ça que ça marche. C'est terrible, mais
c'est ça. Parce que je pense qu'il y a de plus en plus de gens, de toute façon, qui ne vont pas avoir... le choix que de passer par ce qu'on est en train de faire.
C'est clair.
Dans le sens où ils vont prendre conscience que voilà, y a un truc à faire, que plus tard, ça va être beaucoup plus agréable pour eux s'ils prennent des bonnes habitudes. Moi, j'ai des, tu vois, j'ai des parents qui sont frugales aussi, mais par contre, qui n'ont jamais eu l'intention, en fait, de... Enfin, ils ont investi dans des appartements, mais par contre, tout ce qui est actions, bourse,
c'est pas leur
de placement un peu plus... C'est pas trop leur truc, parce que eux, il leur faut vraiment du concret, il leur faut
voilà, tangible,
physique.
Ouais.
Et ça, y a pas de mal. Y a pas de mal à ça. Mais j'essaie de leur donner des petits conseils. Après, bon, les parents, ils sont une autre génération. Du coup, c'est un peu plus dur de leur faire comprendre qu'il y a certaines autres opportunités. Bien mais il y a plein d'opportunités aujourd'hui, que ce soit sur Internet ou même aux alentours de chez nous. Toi, tu as investi dans des garages, dans des appartements.
Ouais.
Moi, c'est quelque chose que, tu vois, j'aimerais bien plus tard entreprendre parce que pour le moment, j'ai qu'un CDD et j'ai toujours eu des CDD. Hein. Toute ma vie, j'ai eu des CDD.
Ouais, moi aussi, hein. J'ai jamais été en CDI. Hein.
J'ai des compétences qui ne sont pas forcément recherchées, donc j'ai eu que des CDD dans ma vie. Heureusement que j'ai ma compagne qui a un CDI, parce que
et voilà, ça, c'est bien.
Les compétences qui sont recherchées.
Je suis tout à fait d'accord.
Et c'est super bien pour commencer à investir. Et aujourd'hui, on prévoit avec ma compagne de se lancer dans l'immobilier. C'est quelque chose qui nous plairait.
Ah, cool.
On a encore un peu de mal à se lancer, mais c'est quelque chose prochainement que on compte bien faire. Après, c'est...
Eh ben, ça tombe à point nommé que tu parles de ça, puisque ça me permet de rappeler que j'ai la formation dédiée à l'immobilier sur laquelle je suis en train de travailler, qui sera disponible prochainement. Voilà, j'en profite pour faire ma pub.
Super, super. Et ben, moi, tu vois, par rapport à l'immobilier, ben, je suis... moi, mes valeurs, en fait, par rapport à l'investissement, enfin, comment je choisis mes investissements. L'immobilier, c'est peut-être la chose qui, moi, personnellement, me fait le plus peur. Parce que...
C'est des gros montants.
C'est pas voilà, ça dépend. Ouais, c'est des gros montants, déjà. Et puis, on peut avoir un peu plus de problèmes si jamais on ne fait pas attention à certaines choses.
Bien sûr.
Puis même... moi, après, je préfère être investi sur les marchés financiers, même si pour certains, ça leur fait extrêmement peur. Mais moi, je trouve ça moins effrayant. Et après, c'est ma façon de voir les choses. Je trouve que c'est beaucoup plus facile, tu vois, de vendre un actif sur un broker que de vendre, par exemple, un bien immobilier. Voilà, je trouve ça même beaucoup plus facile à déclarer qu'un bien immobilier. Mais je suis conscient que l'immobilier, on doit passer par là déjà pour déjà grandir financièrement.
Et puis la force
un
de
bon
l'IMO,
patrimoine.
Ouais, puis tu sais, la grande force de l'IMO, c'est que tu peux en acquérir avec l'argent de la banque, avec
Bien
la
sûr.
Dette.
C'est un effet de levier immense, l'immobilier.
Oui.
Et ça, j'en suis conscient. Je sais que je dois passer par là. Je sais que je dois faire des efforts, que je dois plus m'investir. Sur l'apprentissage par rapport à l'immobilier, que je vais me former par rapport à ça, parce que je sais qu'il ne faut pas négliger le truc, parce que c'est des gros montants, comme tu l'expliquais, et je vais faire attention, je vais me former. J'essaierai de mettre ça sur Instagram, de faire suivre un peu le
yes,
parcours.
Yes, alors attends, on te retrouve comment sur Instagram, là, parce que tu m'en avais parlé avant, tu m'avais dit, ouais, il faudra qu'on en parle, alors vas-y, dis-moi, comment on peut trouver Adrien sur Insta?
C'est ça, vous marquez adrien.chaperon, chaperon comme le petit chaperon rouge, et voilà, vous allez me trouver. J'ai une petite photo de profil en noir et blanc, donc c'est assez facile à me trouver.
Ouais.
Pour ceux qui ont envie de passer par mon Insta pour me faire un petit coucou, pour qu'on puisse se suivre, et puis
grave.
Puisse créer comme un club, comme un club
une communauté,
footballer.
Petit
c'est
à
avec,
petit, on fait
voilà,
grandir tout ça,
ça
ouais.
Et c'est avec grand plaisir.
Et puis, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que ce dont on parle, bah, c'est vrai, quoi, tu vois, tu le partages là-dedans, voilà, quoi, c'est ça.
Bien sûr. Ouais, je vais te dire une chose, Jérémy, dès que j'ai mis de l'argent sur la bourse, je me suis posé beaucoup de questions et je suis passé sur beaucoup de moments de doute. Je savais que ça allait remonter, mais j'ai eu beaucoup de doutes à certains moments, j'ai vu mon argent... je vais pas dire s'envoler, mais j'ai eu des fois des moins 600 euros quand j'ai commencé à mettre mes premiers euros. J'avais vraiment la boule au ventre, mais j'étais persuadé que ça allait remonter parce que je savais que c'était quelque chose qui allait être qu'éphémère en fait dans notre société. Mmh. Et je savais que ça allait remonter et je peux t'assurer que de voir que quelque chose dans lequel on a mis nos billes et que du jour au lendemain, ben, ça commence à prendre de la valeur tout doucement.
C'est gratifiant.
C'est gratifiant. Et puis, wow, ça te ouais. laisse déjà en plus de voilà, des idées pour le futur. Et puis,
attends, il y a le deuxième effet qui se coule que tu vas vivre, je te le souhaite bientôt, c'est quand tu vas percevoir ton tout premier loyer. Alors là, on en reparlera, Adrien.
Je perçois déjà des dividendes en fait de certaines actions que je possède.
Cool. Ouais.
Ça c'est super, c'est incroyable. C'est, déjà de recevoir de l'argent de la part d'une société, c'est déjà un truc de fou. Et puis je suis aussi investi dans du crowdfunding, si je dis bien le terme crowdfunding, c'est ça.
Crowdfunding. Ouais.
Je suis un peu investi dans certains projets qui me rapportent aussi de l'argent chaque jour, chaque mois, je reçois de l'argent. Et ça après c'est quelque chose d'un peu plus risqué.
Moi personnellement, je suis pas du tout fan du crowdfunding. Enfin, je suis pas du tout fan des investissements dans lesquels il n'y a pas un collatéral. C'est-à-dire que moi, je veux bien prêter mon pognon, mais je veux être sûr de le revoir.
Bien sûr.
L'argument de me dire il suffit de diversifier, pour moi, il n'est pas suffisant.
C'est de l'argent en fait, qui est sécurisé par la société qui propose ces placements-là, qui, si jamais il se passe quelque chose avec ton investissement, il te rembourse. Il te rembourse en fait la somme que tu as perdue sous un délai de 60 jours.
D'accord.
Et tu retrouves quand même tes billes.
Donc il y a quand même un collatéral, il y a une sécurité.
Voilà, il y a une petite sécurité. Après, les rendements, ça va jusqu'à du 10%, même un peu plus si on veut prendre un peu plus de risques. Mm-hmm. Moi, là, je suis sur un investissement de 10%, et chaque jour, je touche en fait des petites rentes qui se cumulent, ça fait un effet boule de neige, et ça, je trouve ça incroyable. Ça, c'est même de se dire j'ai réussi à avoir cette somme d'argent à la fin du mois, j'ai rien fait pour enfin j'ai rien fait de façon de parler.
Si non, tu peux pas dire que t'as rien fait.
Bien sûr. j'ai mis de l'argent
d'abord tu t'es renseigné, t'as fait l'effort d'être curieux, tu t'es renseigné, ensuite t'as pris le risque de te bouger les miches et d'y mettre des ronds. Tu vois,
bien sûr.
Non, mais c'est vrai, on dit t'as rien fait. Si, t'as fait des trucs, tu vois, tu peux pas dire t'as rien fait. Et c'est même en ce sens-là que je dis que je considère que c'est pas passif, parce qu'il y a quand même une démarche à faire, une réflexion à faire, et aussi une veille à faire pour veiller à ce que tout se passe bien, quoi, tu vois.
Voilà. Bien sûr,
ok,
sincèrement. C'est pas parce que vous avez des petits revenus aujourd'hui que c'est pas impossible de mettre de l'argent de côté.
Ouais.
Et puis même, je vous assure que malgré le petit salaire que j'ai aujourd'hui avec ma compagne, on a un patrimoine qui est quand même vraiment pas mal en net, vraiment qui est vraiment quand même assez important. Mais c'est seulement, il faut de vous-même essayer de réduire des frais qui ne sont pas forcément nécessaires, que ce soit votre loyer, votre facture pour la voiture, pour les assurances, vos factures de téléphone. Réduisez un maximum de ces choses-là, et puis vous verrez que l'argent est beaucoup plus facile à récupérer, beaucoup plus facilement, et ça ne demande pas forcément beaucoup d'efforts, déjà pour récupérer pas mal d'argent. Et ça, accumulé sur plusieurs années, ça peut être monstrueux, et puis même ça peut carrément changer votre vie, parce que aujourd'hui, moi, il y a quelques années en arrière, j'étais encore au SMIC, bien sûr, et aujourd'hui, je n'ai pas un salaire non plus incroyable. Mais déjà, l'argent en fait, que j'ai pu économiser pendant toutes ces années m'a quelque part changé, en fait, et a changé en fait, mon point de vue sur beaucoup de choses, mais dans le positif, en fait, pas dans le négatif. Ça m'a amélioré sur beaucoup de choses. Je vois la vie beaucoup plus belle qu'elle paraissait auparavant. Et puis même, je suis plus à l'écoute des opportunités parce que je peux avoir les moyens en fait, de pouvoir investir là-dedans.
Dans des les voir déjà, de les détecter.
De les détecter. Et ça, c'est qu'avec l'argent en fait, que vous aurez sur votre compte, que vous pourrez vous dire, mais pourquoi pas moi? Pourquoi je ne pourrais pas le faire? Est-ce que c'est vraiment trop loin de moi? Non, je peux l'acheter, je peux me permettre d'acheter cet actif, d'acheter ce truc. Et si je sens qu'il y a quelque chose à faire, si je peux acheter un objet pour pouvoir le revendre plus cher, voilà, il y a plein de façons de se faire un peu d'argent. Mais pour ça, ça passe par une chose, c'est déjà d'être soi-même en sécurité et d'être soi-même un peu plus à l'aise financièrement pour pouvoir se dire, il y a un truc à faire. Et ça, sincèrement, c'est le plus
beau. C'est les petits ruisseaux cumulés qui finissent par faire les grandes rivières et qui feront que vous serez beaucoup plus en sécurité et que vous arriverez petit à petit à avancer vers la liberté financière. Merci beaucoup, Adrien, pour cette longue interview. C'était un plaisir de discuter avec toi.
Merci à toi, Jérémy. Ça fait vraiment plaisir de te parler. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas parlé.
Ça faisait quasiment un an, il me semble. Donc, écoute, on aura l'occasion de rediscuter ensemble parce que on verra un petit peu comment tout ça avance de ton côté.
Je passe juste un petit coucou à ma chérie que j'aime énormément, qui n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'elle est avec une amie en train de prendre du temps pour soi et de se faire plaisir à sa manière. Mais je pense très fort à elle. J'aurais voulu qu'elle soit là pour parler d'investissement aussi avec elle, parce qu'elle a sa façon de voir les choses elle aussi.
Bien sûr.
Et elle est investie dans plein d'autres trucs. Hein. J'ai pas tout dit d'un coup, mais elle investit dans pas mal de choses. Et aujourd'hui, je suis très heureux de partager ma vie avec elle. Et je pense à elle. Et je lui fais un gros bisou si elle
m'a dit. C'est presque une déclaration de mariage, là.
Pas encore.
En tout cas, c'est très mignon. Merci beaucoup. C'était super sympa. Merci beaucoup, Adrien. À très bientôt.
À bientôt, Jérémy. Merci.
Ciao, ciao. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à écouter les autres épisodes parce que tu vas également apprendre des tas de choses. Si t'as aimé, il faut pas hésiter à laisser un petit commentaire et également à partager cet épisode sur tes réseaux sociaux pour essayer de faire grandir cette communauté. Je rappelle qu'il y a également la chaîne YouTube Frugalisme et Liberté Financière. Je te dis à très bientôt, merci, salut et ciao.